Soyez les bienvenus avec Elina Kadomounadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Daniel Morin. Tom Villa.
Bonjour.
Et Tanguy Pastureau sera avec nous et notre invité Mathieu
Amalric. Bonjour.
Bienvenue Mathieu, bienvenue, on est ravis de vous accueillir, d'autant plus ravis que nous avons adoré Barbara.
Une claque.
C'est-à-dire que pour une artiste aussi barrée que Barbara, il fallait un mec aussi barré que vous. Et un biopic qui sorte des...
Sentiers battus.
Voilà. De tous les écueils, qui tombent dans aucun écueil. Parce que les biopics, ça peut être chiant comme la mort, pardon. Surtout quand...
Le biopic et la mort, ça vient souvent.
Oui, oui, c'est vrai. J'ai des noms, je vais pas en citer. Il y a beaucoup de biopics loupés. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une sorte de récit linéaire, chronologique, de la naissance, la mort, avec une sorte de montage un peu artificiel pour dire on n'a pas fait du début à la fin, donc chiant. Et puis en termes d'incarnation, c'est souvent chiant aussi. Et là, on va l'expliquer. On va expliquer pourquoi c'est pas chiant et pourquoi c'est vertigineux et ingénieux.
Merci.
Quel a été votre moteur en fait au début, vous avez dit j'ai envie de faire ce sujet, on vous l'a proposé, vous n'êtes pas spécialement fan de Barbara en plus vous.
Si, comme tout le monde, on a l'impression qu'on est né avec, que
vous n'êtes pas un master
dans
en
la voiture Barbara. Des parents, ouais. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais je l'ai jamais vu en concert, par exemple.
Vous n'êtes pas un passionné, quoi.
Comme Jeanne, nous l'avons pas vu.
Jeanne Balibar.
Oui. Ouais. En concert. Non, c'était un cinéaste qui s'appelle Pierre Léon qui devait faire ça. Eux, ils ont eu leur vie modifiée par Barbara dès l'âge de 16 ans. Ils ont pris 8 ans à essayer de faire ce film. Ils n'ont pas réussi. Ils se sont fatigués. Ils m'ont dit, tiens, et si t'essayais toi?
Et finalement, c'est pas mieux
d'être vierge de tout.
Un grand fan de Barbara, comme ça on est peut-être un peu moins paralysé.
Si, c'était du coup presque comme une fantasmagorie ou comme Victor Hugo qui fait tourner les tables pour voir s'il y a un esprit qui allait apparaître. Mm-hmm. Puis laisser des courants d'air, que chacun garde sa Barbara, pas donner un sens à une vie après coup. Et puis je vous avoue aussi, accéder à Jeanne, c'est-à-dire, non mais c'est vrai, c'est-à-dire, je n'aurais jamais imaginé ce film si Jeanne Balibar n'avait pas déjà été dans le film de Pierre Léon, dans le projet.
Alors, il faut aussi expliquer que vous rentrez dans la tradition un peu des Spinal Tap et des faux documentaires et des délires au cinéma aussi, c'est-à-dire une espèce de mise en abîme avec, est-ce qu'on est en train d'assister au tournage d'un film sur Barbara, est-ce qu'on est en train de se pencher sur les problèmes d'une comédienne qui doit incarner Barbara, est-ce qu'on se penche sur les problèmes d'un metteur en scène qui tombe amoureux de Barbara et de celle qui va jouer Barbara, enfin il y a tout ça au milieu, ça peut paraître compliqué mais enfin c'est une simplicité
incroyable. Oui, parce qu'il y avait la musique avant tout, je vous avoue, c'était trouver un moyen, des situations quoi, pour qu'il y ait de la musique de sa chaloupe quoi, tout le temps, et puis de filmer une actrice au travail, c'est-à-dire ce personnage de Brigitte qui doit jouer Barbara. C'est beau les gens au travail. Moi, ce qui m'intéressait, ce qui me passionnait, c'était de voir comment les chansons lui venaient à Barbara, elle qui connaissait pas le solfège, vous voyez.
Alors, ce que j'allais dire, c'est le point commun de tout ça, c'est-à-dire que ce soit le travail de la comédienne pour le personnage de Barbara, que ce soit le travail du réalisateur metteur en scène qui fait le film sur Barbara, que ce soit la vie de Barbara, le point de départ, c'est le mode de création, le mode créatif.
Comment créer
un film, comment créer un rôle, comment créer une chanson.
Finalement, c'est ça. Et en se débrouillant pour qu'il y ait du Barbara puissance 1000, quoi. Il y en a partout. Tout le temps.
En fait, c'est très musical parce qu'il y a de la musique en effet dans le film, mais il y a une forme de variation, une sorte d'exercice de style permanent qui fait que, à travers ça, on obtient aussi un film musical, même s'il n'y avait pas de musique. C'est ça qui est assez étonnant, parce que vous parvenez à faire quelque chose d'assez étonnant. Votre personnage du réalisateur commence à être submergé par cette Barbara, la vraie, la fausse. Il y a des images d'archives, il y a les images de Jeanne Balibar. On se demande à un moment si Brigitte, qui est cette actrice incarnée par Jeanne Balibar, n'est pas vraiment la vraie Barbara.
Oui.
Est-ce que c'est pas Barbara qui joue Jeanne Balibar?
Non, mais par mimétisme, c'est vrai.
Tout est mélangé.
Les scènes, ça donne le vertige, mais c'est un vertige heureux et joyeux. Et je trouve que vous parvenez à faire quelque chose d'assez poétique et fantastique.
Mais c'est un peu le bordel quand même.
Oui. Mais c'est un truc, c'est comme un filtre d'amour, si vous voulez, ou une intraveineuse. lumineuse ou une drogue. Ouais. Mais
on
est sous drogue.
Pour rejoindre ce que disait Leïla.
On est sous substance, on est sous substance.
Pour rejoindre ce que disait Leïla, dans le film, la question est posée par Jeanne Balibar. Est-ce que c'est un film sur Barbara ou sur toi?
Oui, c'est vrai. À un moment, Brigitte demande à ce réalisateur qui, lui, est coincé à 16 ans. Donc, c'est un fétichiste. J'ai même peur que ce soit un nécrophile. C'est tout à fait possible.
Ouais, c'est la vanne, en fait, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai. Et évidemment, le type rentre dans son propre film pour revivre son émotion des 16 ans quand il a dû voir un concert de Barbara et qu'il s'en est pas remis. Et il vire un figurant et il se met à la place du public
pour revivre ça.
Donc évidemment que Brigitte...
Et il dit « filme-moi ». Et en plus, il dit « filme-moi ».
Et après, dans la loge, il y a tous les fans qui viennent pour le signer. Et puis il s'est mis dans la queue. Donc évidemment que l'actrice, à un moment, lui dit « mais vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous ?»
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit « cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage au printemps. » Tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour.
Vous avez compté le nombre de chansons de Barbara dans votre film? Parce que
non, mais il y en a beaucoup, en fait. Ouais. Il y en a tout le temps. Tout le temps. C'est pour ça que le générique, j'ai pas commencé par les techniciens, j'ai commencé par les crédits musicaux, parce que moi j'attends toujours la fin du générique pour voir les musiques.
C'est vrai.
Et puis c'est écrit tout petit, on n'arrive pas. Là, j'écris en bien gros et on les a tout de suite. Et il y en a.
Rattrape guère que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps.
Barbara, signée Mathieu Amalric, avec d'ailleurs même dans le générique le nom de Jeanne Balibar, tout ça est mélangé. Barbara Balibar, c'est une joyeuse fête en tout cas à laquelle vous assisterez en allant voir ce très bon film. J'espère, Tom Villa, que vous avez compris pourquoi maintenant on a invité Mathieu Amalric.
Mais vous l'avez dit. Parce que... Alors, à noter que Barbara, c'est pas un biopic sur Barbara, mais un film sur un mec qui fait un film sur Barbara. Donc moi, ce matin, aussi, je vais vous faire une chronique sur un mec qui doit faire une chronique sur un mec qui fait un film sur un mec qui doit faire un film sur Barbara. Voilà. Accrochez-vous parce que Game of Thrones, ça sera Joséphine
Angers.
Alors déjà, j'ai réécouté tout Barbara, j'ai pleuré. Du coup, j'ai regardé tout au film, Mathieu Amalric. J'ai pleuré. En même temps, j'ai commencé par le scaphandre et le papillon. Non mais, là, je me suis dit, on va faire un petit break dans ma préparation de l'émission. Du coup, j'ai maté N'oubliez pas les paroles. J'ai pleuré. Non mais parce qu'il y avait une meuf qui apprenait Calogero, c'était horrible. Bref, alors pour avoir bien réécouté Barbara, c'est magnifique, mais ça passe pas partout. Rupture, décès, mais le spectre reste réduit. Je veux dire, à la limite, tu peux passer L'Aigle Noir en soirée, en fin de soirée, pour que les gens partent. Mais mais c'est vrai que si t'as un coup de blues, il y a un moment, t'allumes le gaz, tu mets la Traviata et puis c'est fini, quoi. Puis j'ai voulu regarder un peu tout ce qu'Internet proposait autour de Barbara. D'ailleurs, partout dans les couloirs de Radio France, pas plus tard que ce matin, j'entendais des gens dire oui, Internet c'est génial. Mais non, Internet c'est pas génial. Parce qu'à cause d'Internet, il y a des mecs qui sont au fin fond du Vercors, qui se font chier dans leur chambre et ils ont un ordinateur et ces mecs-là, ils se disent. Et si je remixais L'Aigle Noir de Barbara? Alors, si vous êtes en voiture et que vous nous écoutez, garez-vous sur le côté, parce qu'il se peut qu'il y ait des accidents sur la conscience. Voilà.
C'est Barbara, ça? C'est L'Aigle Noir en techno.
Voilà. Alors, on ne sait pas si c'est Jean-Michel Jarre qui a sorti Oxygène 58 ou si c'est du Barbara. Déjà, je voudrais m'excuser auprès de la famille des ayants droit.
Et de tous les aigles noirs qui nous écoutent.
Qui sont en train de se suicider. Je vous jure que c'est vrai, le titre sur YouTube, il y a marqué L'Aigle Noir, superbe remix.
Il faut attirer chaton. Voilà. Généralement, il y a marqué avec chaton.
Alors, superbe sans eux, hein, comme la Skoda. Si vous aimez les voitures, ça fait marrer que Nagui. J'ai trouvé sur Internet un mec qui fait des covers. Alors, cover, c'est le mot anglais à la mode pour dire reprise. Voilà, ça c'est Internet aussi. Avant, on disait caméra cachée, maintenant on dit prank. Reprise de chanson, on dit cover. Dîner entre amis, Nagui, il dit Jackie et Michel. Et j'ai retrouvé un mec qui fait des covers de Barbara.
Un beau jour, où était-ce une nuit?
Patrick Bruel.
Il fait bénévole aux enfoirés. Ah mais c'est
non,
ça.
Non, arrête.
Faut pas faire
c'est
ça.
Patrick Bruel qui était l'un des premiers à sortir un album. C'est vrai, c'est une grande période hommage à Barbara.
Oui. Entre Depardieu, Alexandre Taro, qui va reprendre avec pas mal d'artistes.
Et puis il y aura aussi la Philharmonie qui va consacrer une expo à Barbara dans laquelle Mathieu Amalric va participer. Mais je vous ai coupé la chic.
Non, pas du tout. Ah, la chic. On est en 2017. Barbara, c'est magnifique, mais en écoutant un peu ses chansons, j'ai remarqué qu'elle a quand même une petite fixette, premier indice.
Il pleut sur les jardins ralentis, sur les roses de la nuit,
Ça, c'est la chanson Pierre. Deuxième indice.
Paris sous la pluie me lance et m'ennuie.
Ça, c'est Gare de Lyon. Et pour finir, non, sans surprise.
Il a plu sur Nantes.
Donc voilà.
Tu peux pas la réduire à une Madame Météo, c'est pas
mais
possible.
Mais il y a la joie de vivre, parce que la mal de vivre et finit par la joie de vivre.
Une petite envie de se suicider. Allez, pour vous remonter le moral. Bonne journée.
Merci Camilla.
La bande originale, Lady, sur France Inter.
Et c'est vrai qu'on retrouve l'humeur quand même aussi de Barbara dans, avec ses potes dans le film aussi, où elle est dans la vanne, où
elle était une des femmes les plus drôles du monde. Enfin, Roland Romanelli vous le dira. Les gens
qui sera tout à l'heure notre invité. Oui.
Il dit, qu'est-ce qu'on s'est marré. Et ça, c'est vrai que ça a été une découverte. Je ne pensais pas ça. Et c'est en voyant des bouts de radio, notamment ce fou rire avec Foulquier, qui est extraordinaire, et ce petit film de Vergès, de Gérard Vergès, qui était le mari de sa costumière Mine Vergès, qui a pu donc la filmer en tournée. Et qu'est-ce qu'elle est drôle quand elle fait le parrain en yiddish de cuisine ou en hongrois. C'est quand même poilant. Et c'est là où je me suis dit la fantaisie, voilà.
Mais vous êtes obligé à quoi? À avoir beaucoup de consultants, à feuilleter tous les documents possibles.
Oui,
pour,
on a tout lu, tout vu, tout bu, ça c'est sûr.
Jacques Tournier.
Jacques Tournier, et c'est un des textes les plus beaux qui va être édité chez Segers, justement. C'était une collection qui s'appelait Poète d'aujourd'hui. Elle dit, je suis pas du tout une poète, et du coup, ça s'est appelé Chanson d'aujourd'hui.
Mais c'est une scène qu'il y a dans le film où
Jacques Tournier,
propose de participer à cette collection.
Ouais. C'était être une éponge, quoi. Tout lire, tout savoir. Parce qu'on n'arrivait pas à l'écrire. Je n'arrivais pas à savoir comment faire pour que le film ait un peu des courants d'air. Comment on fait avec les clichés? C'est toujours très amusant, ça. Comment on fait avec l'aigle noir? Comment on fait avec le père? Avec la jeune fille juive? Et puis avec l'amour de son public? En gros, c'est ça, Barbara, pour les gens. Et comment on fait pour que ce soit, que le spectateur ait l'impression que c'est, il y a que lui qui l'a vu dans le film, que ce soit pas, voilà.
Comme les chansons de Barbara, on a la sensation qu'elle n'écrit que pour nous.
C'est ça.
Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là dans le film, comme s'il était dédié à chaque spectateur.
C'est ça. Oui, je pense qu'en fait, c'est ça. C'est elle qui nous a donné la respiration du film, en fait. Ouais. Et puis elle faisait 43 trucs à la fois.
Et elle était beaucoup seule. Aussi, visiblement dans son mode de création, elle s'enregistrait. Oui. Il y a ce magnéto à bande qui tourne
tout
en permanence, souvent au piano, en essayant des mélodies presque les danserrées, en marmonnant comme ça. En parlant très très vite, ou en jouant très très vite pour essayer de trouver
sans connaître
quelque chose.
Fèche, vous voyez.
Ça, vous l'avez appris et vous l'avez su comment? Pareil, par une espèce d'investigation.
Oui. Investigation, c'est un peu froid comme mot. C'est une promenade, si vous voulez, dans sa vie. Et puis de trouver des choses, des documents, des gens qui. Comme il y a Magnéto qui continuait à tourner, il y a des gens qui ont pu me donner comme ça des bandes qui restaient. On en entend dans des bouts dans le film de comment elle travaillait.
Dites-le-moi du bout des lèvres, je l'entendrai du bout du cœur. Vos cris me dérangent, je rêve.
C'est étonnant parce que c'est un pitch beaucoup plus haut. C'est marrant.
Murmurez-le-moi simplement. Je vous écouterai bien mieux. Sans doute.
Vous avez dû faire des choix, malheureusement. Vous enlevez, quelque tout à l'heure, Leïla disait, les biopics sont obligés de s'attacher à une période ou à un angle donné.
Mais souvent, il n'y a pas de parti pris, donc c'est chiant.
J'ai l'impression qu'à un moment, le récit a été pris en charge par le choix des chansons, en effet, qui a été difficile. Jeanne travaillait beaucoup. Jeanne est rentrée dans le personnage par la musique. Et elle, au contraire, a tout décortiqué, etc., avec des musiciens. Et elle avait appris des milliards de mots, incroyable, d'interviews, de textes. C'était comme une immense boîte à outils qu'elle pouvait ressortir à tout moment. D'où, des fois, on faisait des prises de 20 minutes et Jeanne pouvait partir comme ça sur des improvisations, mais de free jazz, donc avec des accords extrêmement précis. Et c'est le choix des chansons, c'est-à-dire, finalement, comme elle dit au début, Brigitte, vous, qu'est-ce que vous voulez, Yves? Elle dit, il dit tout, commençons par le début. Et le début, c'est quoi? C'est 1900, c'est Fraxon. C'est pendant 13 ans, le fait qu'elle n'a chanté que les chansons des autres, les mots des autres, Brassens, Brel, voilà. Et pourquoi elle a chanté La petite fille et le père, Noël, j'ai mis les mains sur tes hanches, j'ai mis des graines dans ta grange. Quand Brassens est mort, elle était sur scène, la chanson qu'elle a chantée, c'est celle-là. C'est, vous voyez, c'est en dessous. Pourquoi on a mis Les Amours Incestueuses, qui est une chanson pas connue de Barbara? Pourquoi elle a appelé cette chanson Les Amours Incestueuses, qui est un des grands thèmes de Barbara, c'est-à-dire une femme de 40 ans attirée par un jeune homme de 20 ans. Et elle dit les amours les plus belles sont les amours incestueuses. Vous voyez, ça prend en charge l'air de rien, sa vie, et à la fin, ça finit apprécié. Elle qui se disait nomade, qui est restée pourtant 25 ans dans la même maison, qui s'est octroyé un petit bout de France, qui laissait cette maison ouverte à Bruel, à Jean-Louis Aubert et à des jeunes. C'est pour ça que du coup, il y a une reprise de Perla Papa par des jeunes aujourd'hui. Oui. Lou Casa, qui sont extraordinaires.
Quand on dit inceste avec Barbara, on pense aussi à l'interprétation qui a été faite de L'Aigle Noir. Est-ce qu'elle est vraie? Oui. Est-ce qu'elle est fausse ou pas?
Roland vous dira.
Est-ce que le comportement du père à l'égard de Barbara était justement un comportement incestueux ou pas?
C'est ça la chose, c'est que il se trouve qu'il y a eu ces 13 lignes dans des fax, en fait, qu'elle envoyé à son éditeur. Le livre a été édité après sa mort. Le mot inceste n'est pas prononcé. Il y a une manière tellement
délicate peut-être aussi,
et partagée. Mmh. C'est-à-dire, c'est une femme aussi qui prenait sur ses épaules tous les malheurs du monde. Ce qu'elle a fait pour Act Up et le film de Campillo, il y a un lien, si vous voulez, Sida Mours, tous les droits vont à Act Up, si vous voulez. Ouais. Et elle racontait ça pour que ce soit partagé, mais on peut avoir tendance, après coup, à relire ses chansons que par un seul prisme, une seule chose. Elle n'aurait pas aimé ça. Elle n'aurait pas aimé.
Mon beau, mon roi.
Ouais, c'est Les Amours Incestueuses.
Mon amour, mon beau.
Puis c'est catchy quand même, hein, les mélodies, tu peux pas t'en sortir. T'as vu, on les chante après.
C'est vrai qu'il y a un côté grisant. Hein.
Ah ouais.
Et une mélodie qu'on reconnaît,
et elle retombait
comme si
toujours
c'était
sur les
mêmes. Voilà, c'est ça. Il y a une sensation de connaître déjà la mélodie.
Ouais. Parce que ça vient de Schubert, parce que ça vient de Debussy, ça vient de... Par exemple, je ne sais pas dire je t'aime. Brigitte joue au début. Oui. Quand elle dit mon piano le dira mieux que moi. En fait, c'est humoresque de Dvorak. Tout simplement.
Je ne peux pas dire je t'aime. Je ne peux pas.
Voilà.
Je ne peux pas. Je l'ai dit tant de fois pour rire, et on ne rit pas de ces mots-là, aujourd'hui que je veux le dire.
Mais il y a des chansons très drôles, si la photo est bonne.
Alors j'ai fait cette musique qui mieux que moi te le dira.
Là, ce qu'elle va jouer, en fait, ça. Ça, c'est Dvorak.
Vous êtes devenu un musicologue spécialiste.
Par Jeanne. Ouais. C'est Jeanne qui a passé.
Qui vous a éduqué.
Elle s'est occupée de la musique. Et moi, de la paperasse.
Donc c'est vrai, pour vous, c'est vraiment un film Jeanne Balibar, Mathieu Amalric.
Ah oui.
Ce duo,
oui, c'est la vibration extraordinaire. Jeanne dit que c'est un film proustien parce que je filme une femme que j'ai aimée. On s'est aimé il y a longtemps et on n'avait pas fait de film ensemble depuis 17 ans. Et je filme quelqu'un qui n'est plus la même. On n'est plus les mêmes. Mm-hmm.
Alors, puisque vous en parlez, je ne me serais pas permis de rentrer dans votre vie privée, justement.
Mais non, ça fait partie du film.
Mais oui, ce que j'allais dire, voilà. C'est impossible de se détacher de l'histoire d'amour que vous avez eue avec Jeanne Balibar, parce que vous vous retrouvez à nouveau unique, ensemble.
Ouais. Oui, oui, c'est ça. Avec une complicité, un amusement, une détente avec le temps. Ça fait,
ça fait du bien. Vous avez rassuré beaucoup de monde en disant ça. Barbara, le film a reçu le prix Jean Vigo 2017. Ça aussi, ça doit être une fierté pour vous parce que ce prix récompense l'originalité d'un style et d'une œuvre.
Oui, C'est ça m'a beaucoup touché. Et que Uma Thurman, qui ne connaissait rien de Barbara, ne savait même pas qui était cette femme, ait eu envie à Cannes de donner le prix de la poésie, du cinéma. Ouais. Ça aussi.
Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue de Mathieu Amalric.
Oui, Mathieu Amalric, quand je pense à vous, je pense à plusieurs films, à plusieurs rôles, mais notamment à un long métrage qui m'a beaucoup plu.
Vous allez où ?
Chercher mes enfants. Non, je rigole. Tu es quelqu'un.
Ah, vous avez de la chance. Ça doit faire du bien.
Ben, je vous raconterai.
Vous avez ce qu'il faut ? Parce que sinon, j'ai une lime.
J'ai un cric, je préfère, c'est mieux.
C'est tourné, c'est un très beau film.
Aurélia Petit.
Absolument, qui est sorti en 2010. Vous aviez reçu aussi un prix à Cannes pour ce film, qui revient sur le parcours d'une troupe de danseuses adeptes du genre du New Burlesque à travers la France. Et vous êtes le producteur, voilà, qui est un personnage un peu particulier.
Oui.
Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tout est venu aussi d'une lecture. Et là, c'est Colette.
C'est vrai.
L'envers du musical.
Absolument. C'est un journal qui lui avait demandé, comme ça, de faire des petits croquis de sa vie de tournée. Parce que Colette, quand elle a quitté Willy,
ouais,
qui était tout de même l'homme qui signait tous les Colettes,
ouais,
qu'elle écrivait, elle, sous son nom à lui,
et
ben, elle est partie à un moment.
On est au-delà de la solution, là.
Non,
elle a beaucoup aimé cet homme.
Ouais. Et là, elle a commencé à être avec des femmes, en plus, après
Elle
Willy.
Est tombée amoureuse d'une femme, elle est partie, et pourquoi sa liberté est passée par faire des spectacles un peu déshabillés sur scène. Et je trouvais ça beau. Et j'ai trouvé le même esprit chez ces femmes américaines du New Burlesque qui ont, soi-disant, vu l'époque dans laquelle on vit, pas l'âge et pas les formes pour se déshabiller.
Il y a quelque chose de militant là-dedans ?
Elles sont militantes, mais avec une générosité et un accueil des hommes, parce qu'elles aiment les hommes, et c'est pas, voilà, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus efficace, parce que ça gangrène comme ça, parce que c'est beaucoup plus tendre.
C'est enrobant, c'est accompagnant.
Très, très drôle.
C'est très drôle, j'imagine, en plus de vous voir côtoyer comme ça cette troupe, et j'en viens à ce rapport à la troupe. Vous avez exercé plein de métiers dans le cinéma, vous venez aussi du théâtre, il y a une fascination pour la troupe, c'est une nécessité que d'être en groupe. Je vous vois pas seul, même si je vous vois complètement parfois éthéré, et j'adore ça, mais je vous vois en groupe.
Oui, c'est pour ça que le cinéma m'a sauvé, c'est que j'ai trouvé une maison, quoi. Et ce qui m'a attiré, c'est le plateau, c'est tous ces métiers qui font un plan. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, et du coup, c'est vrai que tout de suite, j'ai eu envie d'apprendre tous les métiers du cinéma. Donc, j'ai pu être assistant monteur, régisseur.
C'est fou, c'est
là, vous parlez de troupe, et quand on entend le mot troupe, on a le réflexe du théâtre, et vous répondez cinéma.
Oui, oui, oui. Je trouve qu'il y a quelque chose qui peut être semblable. Mm-hmm. Après, voilà, je suis beaucoup tombé amoureux d'actrices de théâtre, et je les suivais comme ça. Et j'étais en bord de scène, et j'étais vraiment fasciné par le courage de se jeter sur un plateau. Quoi.
Et quand vous avez tourné avec Wes Anderson, il y avait aussi ce rapport de troupe, de groupe.
Travailler avec les mêmes personnes,
Et vous êtes dans ce rapport-là, vous aussi ? Cette fidélité, ça rassure, ça amène, on va plus loin ?
Oui, et on peut se moquer l'un de l'autre. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'esprit de sérieux, du coup. Il faut se replaire. Ça, c'est chouette. Faut se plaire à nouveau, faut se surprendre.
Susciter encore cette envie d'être ensemble.
Et là, par exemple...
C'est ce qui maintient en vie, ça.
Ah oui. Et là, ce film-ci, là, Barbara, le dernier film qu'on avait fait avec Jeanne, il y a 17-18 ans, il y avait déjà Christophe Bocarn, le chef opérateur, qui est le fils de Julos Bocarn. Il y avait déjà le même monteur, François Gédigier. Vous voyez, c'est les mêmes.
Et c'est vrai que quand on voit le film Barbara, et il y a encore l'équipe de film, elle est la troupe, vous la filmez aussi, c'est-à-dire que dans cette espèce de making-of de film, tout le monde est là, tout le monde est dans l'affaire, parce qu'on n'existe pas l'un sans l'autre au cinéma.
Je ne sais pas, c'est mon goût pour le plateau, et j'aime tout du cinéma, tout, le cinéfoil, les projos, les micros,
L'odeur du plateau.
Oui.
La table régie.
Voilà, tout ça. Je m'occupe de la régie, l'importance de la cantine. Non, non, j'étais cantinier, tout ça, sur les plateaux. Je servais Jeanne Moreau sur un film de Peter Handke qui s'appelait L'Absence. Non, non, je vous assure, c'était...
Vous avez conduit aussi, vous étiez le régisseur, je sais pas.
Ah oui, j'étais... Au moment, j'allais chercher Catherine Deneuve et tout. Et c'était... Voilà, et Catherine Deneuve se mettait devant, parce que c'est la femme la plus simple, la plus délicieuse. C'est tous ces trucs-là qui font que vous vous sentez... Ben, on est en train de, voilà, tous faire le même plan, la même chose, ouais, ouais.
Le film s'appelle Barbara, sorti mercredi. Jeanne Balibar et Mathieu Amalric et Barbara. J'ai envie de dire, les trois sont dans le film. On va continuer d'en parler, d'écouter beaucoup de musique. D'ailleurs, avec vous, Mathieu Amalric, vous avez poussé la délicatesse et la politesse dans cette émission de venir avec des disques aussi pour la bande originale.
Bah,
parfait, parfait. Et puis Roland Romanelli, musicien, compositeur, arrangeur et accompagnateur de Barbara, sera avec nous tout à l'heure. Mais d'abord, vous voici Marina Rollman et son humeur.
Merci, merci, restez assis. Alors voilà, la semaine dernière, c'était ma première chronique sur France Inter. Waouh, ça nous rajeunit pas. Une semaine déjà,
comme le temps passe vite.
C'est fou, Leïla, je t'ai connue, t'étais...
jeune.
Bah t'étais là, non? Et après, donc cette première chronique, Nagui m'a dit... Enfin, il m'a fait dire par son assistant, parce que bon, pour les auditeurs, je résume, mais en gros, la première année, on n'a pas le droit de le regarder dans les yeux. Après, il y a un système d'offrande de gibier.
C'est toi qui n'as pas voulu me donner ton 06, arrête.
On dit ça. Enfin bon, toujours est-il... Il y a un petit peu un protocole, voilà. Donc il m'a fait dire, franchement, pour une première, c'était pas mal. Bon, voilà. Donc moi, en entendant pas mal, j'ai compris que j'étais virée. Hein. Non, mais parce qu'il faut se rendre compte d'un truc, c'est que non seulement je viens de Suisse, mais de Genève, région protestante. Donc voilà, s'il y a bien un truc pour lequel on est connu, c'est le fait qu'on n'exprime pas nos sentiments. Hein. Enfin, on est connu pour ça et puis pour avoir blanchi lors des nazis. Mais là aussi, il y a une espèce de petite pudeur autour de ça que je trouve pas inélégante. Enfin voilà. Mais donc pour moi, ce pas mal, ça résonnait comme un truc super violent parce que je suis pas du tout quelqu'un de frontal dans les conflits. Moi, si on me roule dessus, c'est moi qui m'excuse. Oups, pardon, je crois que j'ai mis mon pied sur votre voiture. Enfin voilà. Et donc
suisse.
Ça, bah oui. Mais pour ça, la France, c'est génial. C'est super pour moi d'être ici. C'est une école de vie. Hein. Paris, t'arrives dans un restaurant. Bonjour, un jus de papaye, s'il vous plaît. Enculez-vous. Et ben faisons comme ça. Très bien. Mais voilà. Donc moi, j'ai
l'adresse du resto quand même.
Il y en a beaucoup.
Est-ce que je pourrais avoir de la papaye, s'il vous plaît, pas du café.
Mais donc voilà. C'est bien. Vous êtes habitué. Vous êtes rompu à l'exercice. Moi, j'ai pas encore l'habitude. Donc quand j'ai entendu ce pas mal, j'ai fait mes cartons. Et là, le producteur de l'émission, il m'a rappelé. Il m'a dit. Mais non, pas du tout, on veut que tu restes. D'ailleurs, Nagui aurait voulu t'appeler à ma place, mais il ne pouvait pas parce qu'il ne connaît pas ton prénom. Enfin voilà, toujours est-il, comprends que quand on t'a dit c'est pas mal, c'est parce que, voilà, c'est juste que c'est vraiment ce qu'on ressentait. Voilà. Et c'est là que j'ai compris pourquoi votre pays partait complètement en couille.
Le pays ?
Le pays.
Le pays des papayes.
Voilà. Pourquoi ce pays partait complètement en couille ? Enfin, c'est Daniel qui m'a dit ça. C'est parce que tout le monde s'épanche comme ça. Si on commence à dire ce qu'on ressent à ses collègues, je veux dire, qu'est-ce que prochaine étape quoi ? On dit je t'aime à ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça qu'on va former le prochain De Gaulle. C'est une certitude. C'est vrai. Si on regarde les cultures qui se portent bien, y a que les pays qui se taisent qui marchent. Regardez les Anglais par exemple. Des siècles de flegme comme ça, à garder bien tous ses sentiments au chaud derrière des litres de gin et 3 cm de tweed. C'était les maîtres de l'univers. Tout allait bien. Et voilà, il y a un an, David Cameron, il leur a dit bon, franchement les gars, j'aimerais vraiment savoir ce que vous ressentez vraiment pour de vrai au fond. Et paf, coup sur coup, Brexit. Puis, séparation de One Direction. Et enfin, l'équipe nationale se fait éliminer en 16e de finale de championnat d'Europe de foot par l'Islande. Les Islandais, il n'y en a pas un qui fait ça à plein temps, je veux dire. Ils sont tous fumeurs de baleines ou druides. Et ils ont battu l'équipe du pays qui a inventé le foot. Non mais, enfin, voilà, tout fout le camp. Pareil, le Japon, par exemple. Pays d'intelligence, de raffinement, de beauté, de gens de petite taille. Bon, voilà. Le mot d'ordre, c'est tenu... Non mais moi, je le dis du haut de mon 1m60. Hein, c'est des gens très bien proportionnés, je trouve. Le Japon, voilà, les mots d'ordre, c'est quoi? C'est tenue, civisme. Ils leur ont juste dit, en revanche, dans la pornographie, vous faites ce que vous voulez. Voilà, résultat, il n'est question que de tentacules et de strangulation de mineurs. C'est là qu'on voit les vertus du corset, du calvinisme, une forme de sérieux. Et en même temps, je me dis, on vit des temps un peu incertains. Les deux types les plus mal coiffés du monde ont décidé de s'embrouiller comme deux Anglais bourrés à la sortie d'une boîte de nuit espagnole. Évidemment, ça pourrait finir bêtement en guerre nucléaire. Hein. Alors, je sais que normalement, si la Corée du Nord et les États-Unis entrent en guerre, ils passeront par le Pacifique. Mais tu sais jamais. Tu sais, un embouteillage, Kim qui veut s'arrêter pour un sandwich, Mélania qui a mal au cœur dans l'école, et paf, ils finissent par mettre sur la gueule à Créteil. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut commencer à se faire à l'idée qu'on va peut-être tous mourir. Et alors, tout à coup, tu vois, quand on se dit ça, on se dit que tout latin désorganisé, sentimental, sentimentaux, peu regardants sur l'hygiène que vous soyez, eh ben vous avez peut-être raison. Faut se dire ce qu'on a sur le cœur. Alors voilà, ce matin, je voulais vous le dire, les amis, je vous l'admets, je vous trouve vraiment.
Tu nous trousses volontiers, écoute.
Mais avant ça, je voulais vous admettre que je vous trouve vraiment tous pas mal, quoi.
Voilà. C'est gentil. C'est Marie, non, Christina,
Rolmina, Rolmina Molman.
Marina Rolman, merci.
Vous voyez, Mathieu, nous aussi, on est une équipe. Hein.
Ouais. Soudée, comme ça, une famille.
Elle est pas mal, elle est pas mal.
Une famille. La bande originale de Mathieu Amalric, avant de recevoir cette personne qui a beaucoup compté d'ailleurs pour vous aussi dans le travail, hein, Roland Romanini, vous avez bossé.
Comme fantasme, et puis j'ai eu la chance de le rencontrer.
On va en parler avec lui tout à l'heure, mais d'abord, ce que vous écoutiez Mathieu Amalric dans les années 70, c'était...
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкаю, стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю. Чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте плеть.
Vous voulez dire le titre parce que moi je suis pas capable, hein.
C'est les chevaux.
Non, mais en russe.
Pony.
Tout simplement.
Oui, il y en a un peu plus loin. Ah ouais, après. Pensais, j'ai oublié le russe. Je suis désolé.
Vu le nom, parce que vous avez vécu 4 ans à Moscou, après avoir vécu 3 ans à Washington, en suivant votre papa. Vous avez retenu quoi de la culture moscovite?
C'était sous Brejnev. Et justement, ce chanteur qu'on entend, Vladimir Vysotsky, qui était acteur, le régime acceptait qu'il soit acteur, mais il s'est mis à exprimer des choses. Il pensait même pas être chanteur, il avait une guitare, il a commencé à dire des choses comme un barde. Et ça a bardé parce que c'était politique.
C'est quoi, oui.
Mais pas tout à fait, il s'est débrouillé. Mais ses concerts étaient interdits, et ma mère qui était au courant de tout... c'est des concerts qui pouvaient être annoncés une heure avant. Et puis un jour, elle m'a emmené comme ça et j'ai vu cet homme chanter ça. Vous avez vu, c'est juste ça. Oh, c'est le grand amour de Marina Vladi aussi, Vysotsky. Elle a écrit des choses magnifiques sur cet homme. Voilà. Et pour moi, c'est la Russie où j'étais à l'école américaine.
C'est là où vous avez appris à jouer du piano.
Et voilà.
Et j'ai joué du piano les conservatoires
russes. Vous évoquiez la musique tout à l'heure comme ça, de façon un peu distante, en disant voilà, la musique c'est Jeanne qui s'en occupait, mais vous avez une vraie formation.
Oui, mais totalement abandonnée parce que j'ai sombré dans le cinéma, parce que j'étais feignant et je n'ai pas continué.
Vous regrettez ?
À avoir cette professeure russe Tamara Borisovna qui me notait chaque leçon, qui quand elle s'était cassé le bras, les cours continuaient chez elle. C'était rigoureux et arrivé à Paris, je me suis relâché. Et non, la musique, c'est impitoyable.
Je voulais vous dire, pas, là, vos mains ressemblent un peu à celles de Serge Gainsbourg. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit.
Ah bon ? Alors ça me touche.
Non mais vraiment.
Oui.
Une ressemblance des mains. On n'en parle pas assez d'ailleurs, les ressemblances des mains.
Mais c'est Emmanuel, c'est rare. Ouais.
Mais non, c'est vrai.
Et le fait d'avoir grandi un peu à Moscou, un peu à Washington, quand on est enfant comme ça, qu'est-ce que ça donne ensuite? Ça fait de vous un enfant particulier, j'imagine?
Enfant, on ne se rend pas compte que c'est spécial.
Mais en grandissant.
C'est tout à fait normal. Et puis de même de passer... c'est quand même, on est dans les années 70, oui. De Washington à Moscou, me paraît. Vous ne voyez pas...
C'est fou.
On est avec des enfants. Et c'est beaucoup, beaucoup plus tard. Peut-être que j'ai pas eu forcément le tropisme du voyage. Cette folie du voyage, du coup. Mm-hmm. Il est devenu plus intérieur.
Votre papa était correspondant ?
Oui, il était correspondant. Et ma mère aussi, il travaillait pour Le Monde.
Ouais.
correspondant pour Le Monde, et ma mère était critique de théâtre, critique de livres.
Est-ce que ça fait qu'à la maison, il y avait des soirées, des grandes tablées comme ça, où le tout pensant, j'allais dire, venait se réunir et échanger des idées en fonction des endroits où vous trouviez, que ce soit Paris, Moscou,
Washington? Il y a eu des choses comme ça, oui. Mais après coup, je m'en suis rendu compte. Mes parents, par exemple, étaient devenus très proches de Lily Brick, qui était un des grands amours de Mayakovsky, donc la sœur d'Elsa Triolet, très vieille dame, qui me signait des photos d'elle jeune sur la plage avec Mayakovsky en maillot de bain et qui me disait « Ah Mathieu, j'ai gardé cette photo ». Bon, voilà, oui. Mais ma mère, surtout, avait une immense curiosité pour les dissidents.
En 1984-85, vous écoutiez...
Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas.
Mireille Celet, c'est Chico Buarque, une chanson qui s'appelle Construction, le chantier, les échafaudages. Et ça, c'est vraiment les premiers courts-métrages, parce que j'ai fait mes premiers courts-métrages avec mon meilleur ami, mon grand ami, qui s'appelle Marcelo Teles, qui arrivait du Brésil. Et même, j'ai des courts-métrages, il y a une scène où... Et on faisait des chantiers, en fait. On gagnait notre vie en faisant des chantiers de peinture. Et ils me traduisaient les chansons. Et c'est comme ça que j'ai découvert Veloso et Chico Buarque. Et ça, c'est une chanson...
Vinicius de Moraes, en fait, tous ces... Voilà. Tous ces, ce sont des poètes, hein. C'est plus que des chanteurs ou des interprètes. Et puis, c'est pas... culturellement, ils sont extrêmement forts. Ils ont une influence. Ils ont rayonné sur le monde de la musique mondialement, pas uniquement musique brésilienne.
Ça commence. Il va y avoir des cuivres qui vont rentrer. Ça sort de Et puis c'est une chanson. Chico Buarque raconte que ça vient de Godard, c'est-à-dire qu'en fait, il change le dernier mot de chaque couplet à chaque fois. C'est-à-dire il a aimé cette femme, cette fois, comme si c'était la dernière. Il a embrassé sa femme, comme si c'était la dernière. Et chacun de ses fils, comme si c'était l'unique. Et puis, le couplet d'après, c'est il a aimé cette fois, comme si c'était l'unique. Il a embrassé sa femme, comme si c'était une timide. Enfin, il change les mots à chaque fois. Voilà, c'est magnifique. Il embrasse sa femme comme si c'était l'unique. Donc ça change.
Et
c'est un homme qui va au chantier, les échafaudages sont fragiles et il tombe de l'échafaudage et il s'écrase sur le...
Mais on est dans une BO de film aussi, hein. c'est un...
Ah oui.
À la fois le texte est comme un script.
C'est du Lalo Schifrin, C'est vrai, il y a une influence, c'est les cuivres, non, ils ont été absolument, c'est fou tout ce qu'ils ont inventé. Et ça, c'est mon ami Marcelo Teles, voilà, que j'embrasse.
Faut quand même avoir beaucoup d'imagination et de courage pour faire une chanson qui a pour thème le BTP.
Mais vous avez commencé votre carrière d'acteur dans Les Favoris de la Lune, réalisé par Otar Ioseliani.
Absolument.
Là, vous aviez quoi? 17 ans.
17 ans. Oui, mais pareil, encore la Russie, encore les sortes de dissidents. Otar Ioseliani, géorgien, et... mon père adorait se bourrer la gueule avec lui, et c'est un homme qui a fait des films sublimes et très... pas du tout ce que le régime aurait voulu.
Mais vous deviez être surveillé tout le temps, parce qu'arrivant de Washington, en pleine guerre froide, journaliste...
Absolument.
Ah oui, là,
doublement journaliste, papa, maman, t'imagines.
L'appartement du Monde était toujours le même. La secrétaire de mon père, elle était du KGB. On le savait. Mais une fois, quand même, je me souviens, je me suis énervé, j'ai claqué la porte de ma chambre, bing! Qu'est-ce qui est sorti du mur? Un micro. Et bon, ça faisait partie du...
C'est complètement fou, je veux dire, vous en avez tiré une histoire, vous avez raconté ça?
Non, tout ça, c'est après coup, parce que sur le moment, Vous voyez, c'est normal.
Et à cette période-là, 84, ça c'est votre premier rôle dans Les Favoris de la Lune. Ensuite, l'idée c'est de se dire, je vais passer à la réalisation.
Ah oui, de voir Autard, qui est un cinéma, si vous voulez, qu'on peut un peu comparer à Tati, c'est-à-dire c'est des figures comme ça qui passent. C'est pas psychologique. Il dirige au sifflet. Un coup de sifflet, tu marches, deux coups de sifflet, tu t'arrêtes, trois coups de sifflet, tu prends la bouteille. Et après, il refait tout le son, après, comme faisait Fellini. Et d'accord. Les Russes à l'époque. Et donc, ça m'a plutôt donné envie de jouer au train électrique comme lui, quoi.
En 1996-97, vous écoutiez.
Ça, c'est très particulier.
C'est dingue.
Oui.
C'est dingue parce que là, évidemment, il y a le body talk qui est très à la mode.
Je pense à Camille. Bah oui, c'est de proto Camille, nourrie de ça, ouais.
C'est Luciano Berio. Luciano Berio, compositeur italien, c'est quelque chose qu'il avait écrit pour sa femme, Cathy Berbarian.
Merci quand même.
D'accord. C'est les années avec des Pleuchins, 96-97. Okay. Et je découvre quelque chose à travers lui, le rap d'abord, parce qu'il vient de Roubaix, il connaît tout du rap, et la musique étrange. Là, c'est un disque qui va sortir le 22 septembre, écrit par une autre Barbara, enfin chanté par une autre Barbara, qui s'appelle Barbara Hannigan, qui est une soprano chef d'orchestre.
Je tiens à préciser que c'est votre disque personnel hein, qui, oui. Que nous diffusons là.
Oui, parce qu'il vient de sortir, comme ça. Et dans ses BO d'Arnaud, c'est vraiment parfois des choses comme ça, des gouttelettes, des cris, des...
L'écriture d'un film passe aussi, alors, à part Barbara, mais je veux dire, de n'importe quel film pour vous dans l'histoire du cinéma, la bande originale du film est un élément fondateur, essentiel, les musiques qui s'y glissent, oui. Pourquoi à tel moment un violon, pourquoi rien à
voilà,
tel autre moment.
Voilà, pourquoi rien. Oui, c'est bien aussi, bien sûr. Oui, oui. On peut sortir d'un film des fois lorsque... La musique n'est pas ressentie par la personne qui fabrique le film. Oui.
Et Arnaud Desplechin vous entraîne là dans cette découverte musicale et aussi d'une autre façon dans son cinéma à lui, parce que vous allez avoir un vrai rapport de fidélité là en 96-97, c'est comment je me suis disputé ma vie sexuelle. Et je crois que vous vous souvenez parfaitement du moment où Desplechin vous appelle pour vous dire que le film va être fait avec vous.
Ah oui, je me souviens, oui.
Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là?
Parce que directement, acteur, c'était... il était en train de te proposer de jouer pour la première fois de ta vie, t'as jamais joué, j'avais jamais joué. Ok, je le fais, mais je fais un film à moi après, comme réalisateur. Pas sombrer dans la belle vie d'acteur.
Et c'est un film qui va vous permettre de gagner le César du meilleur espoir masculin. Et avant même de recevoir ce César, vous dites, il faut pas que je tombe dans le piège de l'acteur, il faut que je devienne réalisateur.
Dès qu'Arnaud au téléphone me dit, parce que je suis tombé en cinéma voulant fabriquer des films. Et voilà, et que, ok, acteur, mais prendre le métier d'acteur comme un métier manuel du cinéma. Comme un autre.
Et là, vous faites votre premier long, donc Mange ta soupe, ouais. Qui est un peu inspiré de votre vie, quelque part. C'est l'histoire d'un fils de passage à Paris qui arrive chez sa mère. Sa mère, elle est quoi? Elle est critique littéraire.
Ah oui, maison mangée par les livres.
Voilà, il y a des livres partout. Il y a la même...
Dans son lit.
À la place
du père.
À la place du père.
Absolument. Je me suis dit, comment je pourrais faire de la comédie avec cette tragédie-là? La famille, c'est réellement de la tragédie, notre famille. Il y a des morts, il y a tout ce qui, il y a des drogués, il y a
toutes les familles, toutes les histoires de famille sont tragiques.
Oui, mais là, c'est bien. Et des fois,
après, il y a des psys qui ont plus de travail dans certaines familles que dans d'autres. Mais ça, c'est autre chose.
Et du coup, c'était comment transformer ça en c'est le bal des vampires à quoi j'ai pensé, vous voyez, comme si c'était ma mère, la mère serait un vampire et sucer le sang de tout le monde. Et moi, je me suis bien amusé.
Et vous avez du mal avec les livres, posséder des livres, avoir des livres, beaucoup de livres.
Et non, je reproduis le schéma familial.
Évidemment.
Il y en a partout.
Mais qu'est-ce que vous voulez faire d'autre?
Mais voilà, c'est comme ça.
Mais alors, je vous en offre un juste rapidement.
C'est lequel?
C'est Barbara, forcément,
lequel?
Chez Texture.
Trop tard, il avait le film.
Je me suis dit que vous avez peut-être un peu soupé, mais là, c'est toutes les photos de Jean-Pierre Leloir.
Qui sont
absolument magnifiques. Et je me dis que, bon, écoutez, vous l'avez pas encore vu assez bien, si ça se trouve.
Merci beaucoup.
Tu parles.
Merci.
Il a bien ça fait un livre de plus. Voilà.
En 2005, encore un César, et vous écoutiez.
Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie.
Alors à part évidemment l'autodérision sur Cohn, tout le reste est vrai. Tout ce qu'elle dit, c'est finalement
extrêmement
vrai. La géniale Brigitte Fontaine.
Je voulais chercher une Barbara, donc Barbara Hannigan, ouais. Et une Brigitte, puisque c'est le personnage. Et si on l'a appelée Brigitte, c'est en pensant à Brigitte Fontaine.
C'est vrai.
Et Roland qui vient d'arriver, c'était quelque chose aussi qui nous intéressait beaucoup. Brigitte Fontaine et Barbara, qui se sont connues, qui font à la même époque des musiques qui s'éloignent l'une de l'autre. Mais elle commence à l'écluse avec des choses, en effet, qui viennent des chansons des années 30, quand on écoute les premières chansons de Brigitte Fontaine. Et quelque chose s'éloigne. C'est extraordinaire.
Alors avant de revenir sur Barbara et avec Roland Romanelli, je voudrais juste que nous parlions de Spielberg. Vous êtes imprégné par le monde du cinéma, vous aimez la troupe, vous aimez aussi la technique, vous parlez même de l'importance, et je trouve ça formidable, de la table régie, de la régie, du catering, de tout ce qui fait la vie sur un plateau. Et je suis entièrement
les
d'accord avec vous. Et
non
mais on voit même sur différents tournages d'ailleurs comment ça se passe par ce genre
très
de détails. Là,
complètement,
plus
complètement.
Que par l'écriture du scénar ou le casting. C'est tout ce qu'il y a autour et qui fait la vie. Qu'est-ce que vous avez appris au contact de quelqu'un comme Spielberg, où on dit Spielberg, on a l'impression que c'est que c'est immense et que qu'il n'y a aucune erreur commise à aucun degré. Est-ce que c'est le cas ou pas?
C'est le cas. J'avais peur. Hein. C'était la première fois que je me retrouvais sur quelque chose où le centre du Budapest était bloqué.
Pour Munich,
oui. Et donc tout Paris, c'était Paris sur 360 degrés. Il vient, et donc...
Il a un sifflet.
C'est en son direct.
Il a un sifflet.
Non.
C'est en son direct.
Le scénario, il y a Tony Kirchner, qui a écrit Angels in America, qui est là, qui réécrit les dialogues au dernier moment, alors que toi tu te dis, c'est en anglais, c'est pas ma langue. Et cet homme adorable, délicieux, qui aime tellement les acteurs, et qui arrive sans papier, et qui dit, bon, et en fait, vous êtes que deux, j'étais avec Eric Bana, lui et moi, on va voir comment on va faire. Bon, le décor est beau, c'est quand même bien que vous traversiez la rue un moment, on va voir comment on va faire.
Il improvise, vous voulez dire?
Je vous jure. Il invente, il dit, comment on peut faire? Et à la fin de la mise en place, je vous assure, comme Bana a aussi réalisé des films, il dit, oh, c'est chouette de bosser avec des réalisateurs. Et voilà. Et hop, et le plan est lancé, et puis tout suit derrière. Un mec. Et après, pour les plans serrés, il prend lui-même la caméra, il court, et il vide un magasin, parce qu'il a longtemps tourné en pellicule, en 35 mm, avec un grand camion.
On peut croire que vous êtes dans le...
C'était la même chose.
Dans le cinéma d'auteur, mais j'imagine quand vous avez fait un James Bond, là, dans James Bond, c'était un peu plus...
C'est les cascadeurs.
Plus storyboardé, un peu plus cadré, un peu plus que... Non?
Non, parce que ce qui était très étrange sur ce
James Bond-là... Ah, ça serait bien que tu sautes du pont et que ça explose. Allez, vas-y, on improvise.
On le tente. Finalement, on saute là.
Oui. Avec les cascadeurs, on a beaucoup travaillé. Moi, c'est ça qui m'a le plus fasciné. C'est l'approche de la mort de la part de ces cascadeurs. Parce que, voilà, ça c'était...
Ils mettent leur vie en danger.
Ouf.
Et puis James Bond, c'est l'occasion aussi de découvrir qu'on peut vous voir comme un méchant. Parce que moi, je...
Oui.
Je vous ai trouvé très convaincant en méchant, mais je me dis mince, Amalric méchant, mais non.
Et c'était en fait, la jolie idée de ce James Bond là, c'est que on arrive à une époque où en fait les méchants, on ne les voit plus.
C'est ça.
Ils sauvent la planète, ils s'occupent d'écologie.
Quantum of Solace. Hein,
hein, on en a des entreprises comme ça qui ont trouvé ce créneau. Donc ça, je trouvais que c'était très très juste sur l'époque.
Un méchant d'un nouveau genre,
On dénonce dans les James Bond aussi, c'est politique.
Bien sûr.
James Bond est politique.
Ah oui.
Non, mais c'est
oui, oui.
Ça veut dire méfiez-vous des
Bond,
méchants.
Chaque James Bond raconte quelque chose sur l'époque.
Et Moonraker alors avec les dents. Très mauvaise hygiène bucco-dentaire.
Roland Romanelli revient dans cette émission, ce qui est un bon signe. Ça veut dire que ça s'était pas trop mal passé la première fois. Merci Roland de revenir.
Merci à vous de me recevoir.
Vous avez travaillé évidemment avec Barbara, on l'a rappelé tout à l'heure. Ça a duré, mais ça a duré plus de 20 ans, non?
Non, ça a duré 20 ans.
Ça a duré 20 ans. Aux côtés de Barbara, vous avez signé la musique de plusieurs de ses succès. Vous l'avez accompagné, arrangeur aussi. Et vous avez participé. Alors, comment vous avez travaillé en amont avec Mathieu Amalric sur le film?
Oh ben, c'était simple. Je crois qu'il va.
Il vous a demandé.
On s'est appelé. Voilà, on s'est rencontré. Puis on a parlé. Je me suis un petit peu dévoilé. Il a su tirer de moi tout ce dont il avait besoin, je pense, pour ce superbe film que j'ai vu encore
parce
hier.
Parce que vous avez le sentiment qu'il avait eu besoin d'être rassuré pour ne pas se tromper sur Barbara, ou parce qu'il voulait en apprendre encore plus que ce que l'on peut découvrir dans les livres, dans les documentaires, et humaniser finalement
je l'ai pas reçu comme ça. Moi, j'ai reçu que c'était un homme qui avait envie de me connaître, envie de discuter avec moi, envie de savoir un petit peu comment j'avais vécu mes 20 ans d'amour avec Barbara. Et je pense qu'à travers tout ce que je lui ai dit, il a dû sentir certaines choses
comment les chansons arrivaient. J'avais envie de... Comment ça se passait une journée? Tout simplement. Et ce qui était magnifique dans ce que Roland
le
disait...
Le processus de création, encore une fois, c'est ça que vous voulez
mais savoir. Mais il mettra jamais ce mot-là dessus. Ce qui était beau, comme Roland disait, il disait, je sais pas, on n'avait pas le temps, on travaillait, quoi. Me rendais pas compte de ce qu'on faisait. Il fallait prendre la voiture, il fallait la sono était dans le coffre... Et puis il fallait s'occuper des projos, et puis voilà. Et puis
est-ce que les chansons naissaient comme on voit dans le film par des espèces de murmures,
absolument,
comme s'il y avait, je cherche un truc auquel je suis en train de penser, et je sais pas trop vers quoi je vais, c'est ça?
Absolument, oui. Et on cherchait longtemps. Hein. On cherchait très longtemps. Laisser tourner son magnéto comme on le voit dans le film, 24 heures sur 24. Donc c'est-à-dire, 24 heures sur 24. On va dire 18 heures ou 19 heures dans la journée, et puis après elle repartait dans sa chambre et elle réécoutait tout ce qui s'était passé. Et voilà. Et elle travaillait comme ça.
Vous l'avez reconnue dans le film?
Oui.
Comment vous l'avez rencontrée, Barbara?
C'est elle qui m'a cherché. Elle m'a cherché dans tout Paris parce que elle venait se séparer de son accordéoniste. Et une chance pour moi, c'est l'accordoniste qui était Jos Baselli, avait dit à Barbara, t'inquiète pas, le jour où je ne pourrai pas t'accompagner, je mettrai un remplaçant. Et quand Jos Baselli a dit à Barbara, voilà, c'est cet accordoniste Bernard Laroche qui va t'accompagner, elle lui a dit, non, écoute, d'une part, si tu t'en vas, tu ne remets plus les pieds ici, parce que Barbara, c'est comme ça. Hein. Et ton accordoniste, tu te le gardes, et moi, je me débrouillerai par mes propres moyens. Et elle s'est souvenue de mon nom. Et c'est ça qui a été fantastique.
Et puis vous êtes d'une beauté, Roland, déjà là. Et puis dans le film aussi de Mathieu Amalric, vous avez quelque chose, une sorte de... Enfin, le personnage qui
n'a rien à voir, c'est ça qui est joli. C'est pour ça que dans le film, il se trouve que c'est un accordéoniste qui s'appelle Vincent Perani, mais qui fait 2 mètres, crétin.
Plus de 2 mètres,
ce qui est impossible à filmer.
Mais c'est beau.
Et donc on l'a intégré dans le film. Et c'est ça, on joue sur le fait que les tableaux ne sont pas à la bonne place, que Romanelli, il est trop grand. Mais ce qui m'amusait, c'est que Roland, il a amené des sons nouveaux à Barbara. Et notamment avec tout ce qu'il a inventé avec les synthétiseurs, avec l'accordéon électronique. Et ça, je trouvais que c'était intéressant d'avoir un accordéoniste qui amène des sons nouveaux aujourd'hui, comme Vincent Perani.
On va continuer à en parler, si vous pouvez rester avec nous après les infos de midi, ça serait formidable, parce que tout à l'heure à midi 10, il y aura également Tanguy Passureau. Tanguy, bienvenue, vous allez nous parler de Prince et de Princesse, êtes dans Gotha.
Mais oui, parce que Kate Middleton...
Stéphane Bern vous manque.
Voilà, elle est une nouvelle fois enceinte, Kate, après George, Charlotte va arriver un troisième niard qui s'appellera peut-être Babacar, mais enfin c'est peu probable. Elle produit des princes au même rythme que les Philippins font des t-shirts, ce qui veut dire qu'à terme, nous, roturiers, on va disparaître. Hein, il faut donc se reproduire là tout de suite, profitons du Journal du Midi pour le faire.
Merci, à tout à l'heure, Tanguy Passureau, après ce C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Kadrou-Dadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman. Daniel Morin.
Bonjour,
Daniel. Tom Villard.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Nous aurons tout à l'heure évidemment à nouveau notre invité qui va parler de Barbara, parce que notre invité est Monsieur Mathieu Amalric. Barbara est sortie, Barbara au cinéma. Barbara, c'est un projet qui a duré combien de temps pour vous, Mathieu Amalric, avec Jeanne Balibar?
Quand Pierre Léon m'a passé le relais, je dirais c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. Pour déterrer quelques pièges propres au biopic, tomber amoureux de ça, oui, ça a pris.
Alors justement, dans quel piège vous ne vouliez pas tomber?
Ben, un peu ce qu'on se disait au début, donner un sens à une vie, c'était que peut-être aussi chacun puisse garder sa Barbara à lui, puisque chacun est l'élu. Et donc, qu'il y ait des courants d'air, qu'il y ait à peine des évocations, qu'il y ait des miroitements, et non pas l'enfermer dans quelque chose qui vraiment ne lui aurait pas plu, que ce soit un voilà.
Mais d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que dans le film, on voit Brigitte, Jeanne Balibar, et on voit aussi Barbara, parce que souvent dans les biopics, on s'interdit de voir la personne dont on raconte l'histoire.
Mais le mélange des images d'archives et de Jeanne Balibar est troublant d'ailleurs, parce qu'il y a des moments où on se dit, mais
c'est vertigineux, voilà, c'est ça,
tourbillonne.
C'est qui est qui pour reprendre une chanson de Barbara.
Ouais, et c'est de la voir apparaître aussi qui fait qu'on est paradoxalement encore plus dans son histoire et on est plus avec elle.
Et c'est ça, c'était d'utiliser tous les modes d'incantation du cinéma, quoi.
Bien sûr, ce n'est pas la scène, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai, pas de rengaine.
Mais là, elle est en allemand dans le film.
Mais l'amour y fleurit
c'est
quand même.
La chanteuse en allemand.
Roland Romanelli, vous l'avez accompagné. Sa manière de chanter, comment parce qu'elle est très particulière, cette manière d'un coup d'accélérer la chanson, sa diction, les mots, comme s'il se précipitait, comme si elle essayait de rattraper un tout petit peu la musique, de retomber sur ses pieds, puis de prendre le temps d'être très légère.
C'est vrai. Ben, vous avez tout
confié. Non, mais c'est
vrai.
Il y a quelqu'un,
absolument, dans le domaine de la chanson française. Moi, je connais un petit peu tous nos artistes très connus, mais Barbara, c'est spécial. Ce sont des harmonies spéciales, ce sont des changements de ton spéciaux, c'est une façon de travailler, de chanter différente des autres. Elle a des écarts, elle a des... C'est personnel, c'est Barbara. C'est pourquoi, quand j'étais adolescent, mon rêve, c'était d'accompagner cette femme, parce qu'elle était autrement que les autres, et je pensais que je pouvait être utile.
Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le film, puisqu'on a le sentiment, en effet, chacun d'avoir notre interprétation, notre vision, notre plaisir à voir le film, qui est encore une fois un biopic un peu particulier, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans le documentaire en disant né telle heure à tel endroit.
C'est un biopic. C'est les autres qui sont pas normaux en fait. C'est les autres films qui sont.
On a
pas
la
normaux.
Date de naissance dans le film.
Oui, non, parce que j'ai pas là, c'est que
débrouiller pour qu'on apprenne des choses.
Il y a énormément d'informations. Il y a énormément d'images d'ailleurs, et ce mélange, c'est troublant pour vous d'ailleurs, le mélange Jeanne Balibar, Barbara.
Ah, moi, je suis resté scotché par rapport à l'image, par rapport à la façon dont ça a été filmé, à la façon dont le montage a été fait. C'est hallucinant, parce que des fois, même moi, qui la connais vraiment très très bien, je me posais la question. C'est elle, non? Alors j'ai remarqué.
C'est pas le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, ça, Mathieu?
Si, mais vous pouvez pas savoir, les proches de Barbara m'ont donné le courage, le droit de pouvoir imaginer ce film. Ouais.
Je me suis axé sur un détail. Et là, c'est là où je sais que c'était Jeanne et pas Barbara, c'est qu'elle a une petite fossette sur le menton. Barbara n'en avait pas. C'est là, c'est le seul Jeanne. Détail.
Et si je peux me permettre, elles n'ont pas les mêmes dents non plus.
Barbara a eu, s'est faite refaire.
Oui, parce qu'au début, elle avait des problèmes.
Oui, absolument.
Qu'avez-vous appris de Barbara?
Tout.
à déconstruire,
surtout à construire, puisque je suis arrivé, j'avais 20 ans, je débutais dans ce métier, ça a été la première femme, la première interprète, le premier grand talent que j'ai rencontré, et elle m'a tout appris. Donc j'avais 20 ans, elle avait 36, voilà, et pendant 20 ans, je n'ai fait que ça, apprendre.
Il fallait sacrifier aussi sa vie personnelle, sa vie privée, parce que c'est une histoire d'amour aussi, de travailler avec elle.
Avec Barbara, c'est-à-dire que la première année, ça a été un petit peu difficile parce qu'il fallait que je puisse trouver ma place, parce que c'est vrai que Barbara, c'est quand même assez spécial. Et puis, à partir du moment où elle m'a offert, pour mes 21 ans, un flacon d'habit rouge, tout s'est beaucoup mieux
passé. Le parfum de chez Guerlain, que vous portez toujours ?
Que toujours.
Évidemment.
J'ai été réduit aussi très fidèle à ce parfum.
Et quand on voit des scènes dans le film où elle n'a pas l'air facile, sur la gestion de son costume, la façon dont on range ses affaires, elle semblait avoir une forme d'addiction aussi, je pense, médicamenteuse ou quelque chose comme ça. Enfin, elle semblait être dans un comportement qui n'était pas totalement normal. Ça, vous avez vécu ces années-là aussi.
Pour nous, oui, mais pour moi, c'était devenu normal puisque j'ai appris comme ça. C'est pour ça que j'ai du mal à entendre parler les gens de Barbara quand ils ne la connaissent pas et qu'ils racontent des choses que je n'ai pas vécues. Et voilà. Donc c'est, par contre, c'est vrai qu'elle trouvait que mettre sa veste à côté de son costume de scène, c'est lui enlever toute son énergie. Et ce que je peux comprendre. Et c'est là, elle rentrait dans des colères folles, absolument. Et donc, et puis, de toute façon, avec Barbara, c'était spécial. Moi, j'ai appris une chose avec elle, c'est que, parce que c'est pas facile de travailler avec une artiste avec autant de talent, autant de pouvoir. Mais quand tout se passait bien, quand elle me reprochait rien, tout allait bien. Dès qu'elle me reprochait quelque chose, elle me vouvoyait. Donc elle me prévenait. Alors, donc ça déjà c'était formidable. Et moi je faisais de même parce que bon, c'est vrai que j'étais pas facile non plus parce que je me disais bon, quand même si jamais, j'ai vite appris qui c'était. Je me suis dit si je me laisse faire, elle va me manger. Parce que donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelait la menthe religieuse, parce que c'est vrai. Et donc, bon, et moi, ça faisait rire parce que un gamin, voilà, qui voulait faire l'homme, ça l'amusait énormément.
Et
donc.
Voilà. Et elle riait beaucoup.
Et elle riait énormément.
Avec ce rire qu'on retrouve.
C'est la femme
qui
m'a fait le plus rire au monde.
Faut l'avoir aimé tellement intensément pour en parler, avoir encore ce regard-là.
Ben oui, mais attendez, c'est 20 ans de ma vie, quand même. C'est 20 ans de ma vie. Et puis, c'est mon premier grand amour. Quand même.
Merci d'être venu nous parler
avec
encore émotion. Et le film Barbara est sorti donc le 6 septembre dernier avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric et Barbara. Et sa musique, évidemment, qui est un personnage incontournable aussi. Cette musique, elle fait partie intégrale avec cette longue et belle BO de ce film. Il est l'heure, grandement l'heure, d'accueillir Tanguy Pastureau. Semaine chargée, donc, Tanguy, chez les rois, les princes, les princesses.
Oui, pas chez nous, puisque nous avons zigouillé les nôtres en 1793 avant de planter leur tête sur des pics. C'est nous qui avons inventé les tapas. On doit donc se tourner vers les Anglais, nos voisins à grandes dents, qui ont gardé les leurs au frais et quatre fois l'an les passent au micro-ondes et les regardent végéter à 16 sur un balcon en se disant que si le balcon chute, ça fera de la gelée royale. Alors, il y a bien sûr Elisabeth II qui régente tout. Hein. C'est la patronne, l'équivalent de Denis Brognard sur Koh-Lanta, mais en mieux rasé. Et qui vit depuis 91 ans sans en foutre une rame. Elle est l'activité d'un chanteur de métal satanique qui serait installé à Lourdes. C'est la seule qui pense que Monster, c'est un site sur le Loch Ness. 91 années d'une vie de protocole absurde. Il est par exemple interdit au roturier de la toucher et lui parler. Si elle avait pris un amant dans le peuple, cette masse grouillante et vulgaire, le manon aurait dû lui faire l'amour en silence et à 4 mètres de distance, en projetant sur elle ses sécrétions selon la technique des fléchettes. Non. Elle est donc restée fidèle au Prince Philippe. Mais celle qui ravit les Anglais en 2017, ce n'est pas Mamie Pudding. C'est Kate, la duchesse glamour, qui a marié ce grand couillon de William et qui a mixé le principe du taylorisme et celui de la maternité. Son utérus, c'est l'usine Renault de Cléon. 24 sur 24, elle confectionne des princes. Elle en a déjà autant qu'il y en a dans un paquet de biscuits. En 2013, est arrivé Georges, un ch'ti bonhomme trop chou qui ferait pleurer d'émotion le chef de Boko Haram, rien que s'il regardait faire du cerceau. Puis en 2015, Charlotte, c'est la même que Georges, mais en fille. Hein, c'est pas une sœur, c'est un produit dérivé. Un spin-off. Et là, paf, le corgi, Kate a annoncé qu'elle était de nouveau enceinte. Ouais. Hein, quand elle l'a dit à William, il a répondu « Oh là là, j'en peux plus de cette routine. Zarma, je me taille avec une paysanne mongole. Quitte à ce qu'elle ait le même taux de fécondité, autant vivre à la coule dans une yourte en fumant des bousses de yak. »
Bon, est-ce vous qui avez l'air de tout savoir sur ces princesses, est-ce que vous savez de combien de mois est-elle enceinte, Kate Middleton ?
Oui, dans 8 jours pile, cela fera 3 mois, selon Stéphane Bern, interrogé par Le Figaro. Bern, c'est le spécialiste des monarques. Vous lui bandez les yeux, lui faites sentir un roi. Il vous dit, il a 64 ans, 4 mois et 2 heures. Il y a 50 minutes, il a bu un ristretto. En temps normal, pour annoncer une grossesse, on attend 3 mois révolus. Mais Kate, pas de bol popole, est atteinte d'hypermésis gravidarum. Un nom savant pour dire qu'elle gerbe. Hein, toute la journée, elle vomit pendant 9 mois. C'est comme des vacances à Ibiza quand on fait un mélange ecstasy Heineken, crottin de chevignol. Mais sans David Guetta qui hurle, est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Et malgré ça, elle en est à son 3e lardon. Donc à elle seule, elle a déjà autant vomi que les 4 membres de Led Zeppelin sur leur tournée de 71. Alors le futur bébé entrera à la 5e place dans la succession au trône, derrière Charles, William, Kate, George et Charlotte. Harry, frère de William, passe 6e. Wow. Il perd une place à chaque fois que Kate sort un rôti du four. Il a la vie de Jackie Quartz dans le top 50 quand arrivait le nouveau Michael Jackson. Et il ne deviendra jamais roi, sauf si un jour les 5 devant lui bouffent un plat surgelé Lidl. Leur organisme, pas préparé à ça, lâcherait. Et dans un dernier souffle, il murmurerait « God save the Queen ». Sauf Charles qui dirait « Ah la vache, elle nous a tous enterrés, la vieille ». Alors à noter que Kate et William ne sont pas les seuls à enchaîner la brouette du Berkshire et l'hélicoptère de Buckingham.
C'est position ça.
Exactement. Puisqu'en Suède, le prince Carl Philippe et la princesse Sofia ont enfanté le 31 août d'un petit Gabriel, alors que son frère est de 2016. Un parent. En Suède, il fait pas beau, il y a pas « N'oubliez pas les paroles », donc à part procréer, il n'y a rien à faire. Alors seul souci, au rythme où ça va, d'ici 50 ans, il n'y aura plus que des princes. Hein, donc j'en appelle à nos auditeurs, lâchez-vous les gueux. Le week-end arrive, faites des bébés. Ne regardez pas la 2 parce qu'il y a moi que c'est en go, ça va vous couper l'envie. Mais si nous ne voulons pas qu'à terme il n'y ait que de petits princes mignons, agissons pour qu'il y ait aussi des moches. Hein, d'autant que grâce à ça, vous pouvez éviter un burn-out à Stéphane Bern. Allez, je vous laisse, moi je m'y mets. Hein.
Merci. Merci Tanguy Pastureau.
Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir une petite cantate du bout des doigts. Obsédante et maladroite monte vers toi. Une petite cantate que nous jouions autrefois. Seule je la joue maladroite, similaire et seul dauphin. Ah monsieur, répond la petite bonne, ce que vous me dites n'a rien qui m'étonne. Car fit-elle d'un air étourdi, tous les amis monsieur me l'ont déjà dit. Durant de plus en plus en balle, la petite bonne il fait la cour. Et pour décrocher la timbale, il lui jure toute une vie d'amour. Voyons, ne fais pas la dégoûter, au contraire, tu devrais être flattée. Dans ta chambre je monterai sans bruit, laisse donc ta porte ouverte cette nuit. Il a foutu le camp, le temps du lilas, le temps de la rose offerte, le temps des serments d'amour, et le temps des toujours, toujours. Il m'a planté l'ensemble et c'est l'adresse, il est parti, adieu Berthe. Si tu le vois, ramène-le-moi, dis le joli temps du lilas. Je m'aperçus dans les reflets d'une vitrine sans secret. J'étais suivie par un monsieur. Je l'ai regardé dans les yeux. C'était si mes souvenirs sont bons, avenue de la provocation. Et plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous.